Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
La COVID est-elle installée pour de bon dans la NFL? Encore des remontées spectaculaires cette semaine, et cette fois-ci, c'est une gracieuseté, Tom Brady. La planète NFL a du mal à y croire, mais est-ce que les Browns sont l'équipe de l'heure? Houston, nous avons un problème. Et ça semblait être Bill O'Brien. Et on pensait jamais dire ça, mais un match qui pourrait être déterminant pour les séries ce week-end entre les Cowboys et les Giants. Bienvenue à la Zone payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné. Heureux de vous retrouver encore cette semaine. Je suis en compagnie de mes deux experts, Jean Carrier et Stéphane Cadorette. Salut les gars.
Salut.
Stéphane, qui est expert football au Journal de Québec et de Montréal, et Jean, ancien entraîneur et aussi commentateur du match et analyste du match du Rouge-et-Or quand il y a le temps. Hey les gars, écoute, on va y aller avec vos histoires de la semaine. Il y a beaucoup de choses cette semaine dans la NFL. Commençons avec toi, Stéphane.
Ben écoute, il y aurait tellement de choses à parler, là. On pourrait partir ça pendant une demi-heure, mais on va aborder tous ces sujets-là. Moi, j'ai le goût de vous parler de la superbe défensive des Cowboys de Dallas. C'est pathétique, honnêtement. Puis je vais aller plus loin que ça, là. C'est l'effort global de l'équipe. Commençons par la défensive, les gars. Les Cowboys, 3 semaines de suite qui concèdent au moins 38 points. Ça, là, c'est la première fois depuis 1960 qu'ils font ça. Puis pourquoi je parle de 1960? Parce que c'est leur année de fondation. C'est pas chic ce qu'on voit en ce moment du côté des Cowboys. Les Browns qui ont couru pour 307 verges contre eux. Il a fallu que je vérifie 2 fois après le match. Je me demandais si c'était une erreur de calcul, une faute de frappe, quelque chose. Là, 307 verges, on voit pas ça souvent. Puis Dallas, c'est une équipe qui marque en moyenne plus de 31 points par match cette saison. Donc, on a tendance à se dire, ben, au moins l'attaque fonctionne bien. Oui, dans une certaine mesure, mais il faut se dire qu'ils tirent tellement souvent de l'arrière qu'ils passent à outrance et finissent par marquer des points. Puis l'autre chose, c'est que cette attaque-là a commis plusieurs revirements. Là, je pense qu'ils en sont à 7 revirements déjà en 4 matchs. Puis ces revirements-là ont mené à 45 points de l'adversaire. Donc, la défensive donne énormément de points, puis en plus, elle se fait pas aider par son attaque, qui la place en position désavantageuse sur le terrain. C'est vraiment, vraiment pas beau ce qu'on voit en ce moment à Dallas. Puis le pire, on en a parlé, on va le répéter, c'est qu'ils sont bénis des dieux de jouer dans la NFC East, parce qu'avec les Cowboys, avec les Eagles qui en arrachent, avec les Giants qui sont tout simplement atroces, avec Washington qui, de toute façon, on s'attendait à rien de cette équipe-là cette année, sont en très bonne position pour quand même aller chercher la division. Donc, c'est comme si leur petit malheur passe un peu inaperçu, parce que finalement, ils peuvent s'en sortir malgré tout. J'aurais voulu que les Cowboys soient dans une autre division là, cette année pour mesurer l'ampleur des dégâts, mais heureusement pour eux, ils vont peut-être s'en sortir à cause de la piètre qualité de leur opposition.
L'équipe américaine, America's Team, ouais, ils m'ont dit.
Ben, je te dirais que c'est l'équipe autoproclamée de l'Amérique.
Hey, mais ils sont pas seuls à avoir des matchs de fous avec des scores impossibles. Jean, c'est quoi ton histoire de la semaine?
Ouais, ben c'est justement ça. C'est le nombre de points marqués présentement là, dans la NFL. Écoute, après les 4 premiers matchs, la moyenne de points par match, c'est 51.3, évidemment, en combinant là, les deux équipes. 51.3, c'est la moyenne...
Après les 4 premières semaines.
Oui, exact. C'est la moyenne la plus élevée depuis 1970. C'est l'année où il y avait eu la fusion entre la AFL et la NFL. Donc, ça te donne une idée. Le plus haut avant ça, c'était 48.1 en 2018. Là, on parle de moyenne de points. C'est 3 points plus haut que la plus grande moyenne qu'il y avait eu avant, qui était en 2018. Donc, c'est absolument énorme. Qu'est-ce qui explique ça? Ben écoute, on a déjà parlé d'un podcast différent. C'est sûr que les règles qui favorisent l'attaque aident beaucoup. L'absence de foule, c'est sûr que c'est un facteur qu'il faut prendre en considération. Moi, je pense que je retiens encore deux facteurs qui sont encore plus importants, à mon avis. Le jeu des corps arrière est exceptionnel présentement dans la NFL. Ça, c'est un facteur majeur. Et l'autre facteur, on va regarder du côté de nos amis zébrés, Jean-Nicolas, les arbitres. Les arbitres lancent moins de mouchoirs présentement dans les quatre premiers, après les quatre premières semaines dans la NFL. C'est une moyenne de 13.4 mouchoirs par match. C'est la plus petite moyenne depuis 2001. Donc, c'est une
réduction. Comment vous expliquez ça? Est-ce que le jeu est plus clean ou?
Honnêtement, la NFL a envoyé une directive aux arbitres d'appliquer ou de donner des punitions sur ce qui est évident. Si c'est pas évident, et si c'est pas sur le jeu même. Donc, souvent, il y avait des punitions, surtout pour avoir retenu qui était loin du jeu. Ces punitions-là sont enlevées. Et ça, ça fait une énorme différence. Écoute, c'est 13.4 mouchoirs, c'est une réduction de 28% par rapport à 2019. On parle du quart de punition qui est enlevé présentement par rapport à l'an passé. Donc, c'est quand même énorme. C'est aussi le fait que les punitions pour avoir retenu, ça aussi, ils sont en baisse, et les punitions pour interférence défensive sont en hausse. Donc, quand tu combines les deux, ben ça, c'est sûr que ça favorise le nombre de points. Puis honnêtement, je pense que le spectacle est meilleur présentement parce que justement, les arbitres s'en mêlent un petit peu moins. Ouais. Ça fait longtemps que je dis que les jeux qui sont des punitions pour avoir retenu, il faut que ça soit évident, puis il faut que ça soit ce qu'on appelle play side. Il faut que ça soit sur le jeu même. Et quand c'est à l'opposé du jeu, tu laisses faire ça, même s'il y en avait une, tu la laisses faire. Et c'est ça la directive présentement que les arbitres de la NFL ont eue et qui applique à la lettre. Ça fait un énorme changement.
Je suis d'accord avec toi, Johnny. Moi, les gens vont peut-être se dire ben, le spectacle n'est pas meilleur parce qu'il y a plus de points. Puis c'est pas ça, je pense, ton point que tu amènes. Le spectacle est meilleur parce que le jeu n'est pas arrêté aux 10 secondes.
Exact.
Pour un mouchoir, un arbitre qui gâche un peu le flow, là, l'élan du match, le rythme.
Le rythme. C'est le rythme qui est affecté, exactement.
C'est vraiment meilleur à regarder dans ce temps-là comme spectacle. C'est pas parce que ça finit 44 à 39, là. C'est pas la question. Un excellent match défensif de 17 à 13 peut être aussi bon qu'un match à haut pointage tant que le rythme du match suit son cours et que c'est pas toujours interrompu.
Je te suis à 100% dans cette précision. Stéphane. Puis, dernier petit point, il y a plus d'entraîneurs maintenant qui sont offensifs, qui sont considérés comme des entraîneurs offensifs dans la NFL que des entraîneurs défensifs. J'ai calculé, c'est 22 à peu près, ou peut-être 19-13, dépendamment où il y en a un que tu veux le mettre. Là. Mais ça aussi, ça fait une différence parce que la philosophie d'une équipe est différente. La philosophie de l'équipe devient, écoute, on va gagner en scorant plus que l'autre équipe. C'est différent de penser on va gagner en en donnant moins que l'autre équipe. Tu vas me dire, c'est des petites affaires, mais ça fait une grande différence, la philosophie d'une équipe sur le pointage ou la façon que le match va être joué. Et définitivement que la tendance est présentement engagée des entraîneurs offensifs.
Et quand on est un parieur en ce moment, on prend over.
Over à peu près en tout temps. C'est ça, c'est ça qu'il faut retenir.
Bon, les gars, on a eu chaud dans la NFL la semaine 4, mais après la pause, on va se dire que peut-être la COVID est bien installée dans la NFL. Restez là.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Here comes Huston! Here it comes. First dance of Red Cashin.
On est de retour à la zone payante. C'est le temps pour notre match. On débute ça avec le premier essai. On va faire ça une course au sol, le premier essai. C'est Stéphane qui va y aller avec une équipe d'ailleurs qui aime bien aller au sol. Les Browns, est-ce que c'est l'équipe de l'heure en ce moment dans la NFL? Aïe, ça fait drôle à dire.
Hey, écoute, j'aurais pas cru dire ça. La dernière fois que j'ai trouvé les Browns aussi captivants, je te dirais que c'est dans des vieux clips en noir et blanc. À l'époque de Jim Brown, Otto Graham et... Des joueurs de cet acabit.
Là-dessus, je te trouve un peu sévère parce que les années de Bernie Kosar ont été d'excellentes années avec les Browns. Il y avait du monde spectaculaire dans cette équipe-là.
Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, Jean, je retiens plus le fumble puis la drive de John Elway. Ça a été des fins en queue de poisson en série contre les Broncos deux années de suite.
Tu n'es pas obligé de me faire mal là, présentement, Stéphane. On peut accélérer les choses.
OK, on va se rendre à 2020. OK, je comprends le message. Faut pas que j'en mette trop, mais écoute, les Browns, oui, c'est l'une des équipes de l'heure. Ça, faut leur donner. Ils viennent de marquer au moins 30 points dans 3 matchs de suite, une première depuis 1968. Puis la tendance qui est claire dans leur jeu, c'est qu'ils se basent sur le jeu au sol semaine après semaine après semaine. Regardez, là, semaine 1, 27 courses, 138 verges. Semaine 2, 35 courses, 215 verges. Semaine 3, 37 courses, 158 verges. Puis la semaine 4, je viens d'en parler là, il y a quelques instants, 307 verges au sol. Ça, c'est
un festival offensif, puis Baker n'a pas lancé 20 verges, 20 passes.
Non, c'est ça. Ben, en fait, Baker Mayfield, même si c'est lui qui est dans toutes les publicités, là, on le voit dans différentes publicités nationales, c'est devenu un passager plus qu'un conducteur. Tu sais, le jeu au sol des Browns, c'est clairement la locomotive. Puis ça s'explique en partie, moi, je trouve, par l'avenue d'une embauche qui est passée un peu sous silence durant la saison morte. Bill Callahan, qui est l'entraîneur de la ligne offensive. Pourquoi j'en parle? Parce que partout où il passe, il produit des résultats instantanément. Écoute, il y a eu du succès là, quand il est passé avec les Jets. De 2008 à 2010, quelque chose comme ça. Les Jets ont été deux fois en finale de conférence. Ça aussi, ça fait drôle de dire ça. On est à des années-lumière de ça. Ensuite, il est allé à Dallas de 2012 à 2014. Puis ça a été la grande émergence de DeMarco Murray. Rappelez-vous, là, tu sais, il est passé vite, DeMarco Murray. Il n'a pas été une vedette longtemps. Mais pendant les années de Callahan, il était dominant. Il est allé à Washington après. Qu'est-ce qui est arrivé? La renaissance d'Adrian Peterson. Tu sais, on le comptait pour mort après son bref séjour à la Nouvelle-Orléans. Il est arrivé à Washington, il est ressuscité. Il a eu quand même là, de bons moments là-bas. C'est une constante dans sa carrière. Là où Bill Callahan s'en va, le jeu au sol fonctionne à merveille. Le seul bémol par rapport aux Browns, tu sais, oui, c'est l'une des équipes de l'heure. Mais il faut dire une chose, les équipes qui ont battu dans les 3 dernières semaines, Cincinnati, Washington, Dallas. Tu sais, c'est pas des grandes défensives. Le gros test s'en vient à la semaine 5 contre les Colts. Ça va être un excellent match. Les Colts, c'est la meilleure défensive jusqu'à maintenant dans la NFL. C'est surprenant. Est-ce que c'est cette défensive-là qui étonne qui va casser ou l'attaque des Browns qui étonne qui va casser? Ça va être bien intéressant à voir.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que Jean, t'as hâte que dimanche arrive ces temps-ci.
Oui.
Encore plus.
C'est que maintenant, ça vient avec un sourire au lieu d'un grincement de dents.
Hey Jean, on va te donner le ballon pour le deuxième essai. On va continuer au sol, tiens. Parce qu'il y en a un qui mord la poussière ce matin, ben, en fait, cette semaine. C'est Bill O'Brien qui a été congédié par les Texans. Est-ce que c'était lui le problème à Houston?
C'est une bonne question. Moi, je pense pourquoi il a été congédié? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et pour moi, c'est définitivement ses ajustements comme directeur-gérant qui l'ont mené vers la porte à Houston. Quand tu regardes comme entraîneur-chef, il a quand même eu du succès. Mais quand ils lui ont confié ou quand ils ont donné le deuxième étage, c'est là que ça a commencé à être vraiment une catastrophe pour les Texans. Et évidemment, je pense évidemment, ce qui retient l'attention, c'est l'échange avec DeAndre Hopkins, que honnêtement, tu regardes les résultats présentement en début 2020, puis ça peut pas être une bonne transaction. Monsieur Johnson, le porteur de ballon, ne produit pas, je pense, au rythme que Bill O'Brien s'attendait. Puis honnêtement, ben ça fait très mal aux Texans. Il y a pas juste cette transaction-là, mais pour les partisans aussi, DeAndre Hopkins, c'était quasiment le cœur de cette formation-là. Donc, quand tu fais une transaction comme ça, t'es mieux d'être sûr de ton coup. Je pense que les partisans aussi ne lui ont pas pardonné. L'autre point, c'est qu'il y en a pas juste, il y a pas juste celle-là. Comme j'ai mentionné, Randall Cobb aussi, qui a été engagé à gros prix, pour moi, ça ne faisait aucun sens. Il y a eu d'autres épisodes aussi au niveau personnel qui fait que Bill Belichick, pas Bill Belichick, mais que Bill O'Brien était dans le trouble. Le fait aussi comme entraîneur-chef qu'il y a eu des problèmes, pas juste avec DeAndre Hopkins, mais avec d'autres joueurs vedettes de l'équipe à s'entendre, ça aussi, je pense, ça a pesé dans la balance. Donc, quand tu regardes ça, est-ce que c'était le problème? C'était un des problèmes. Je pense qu'ils viennent de le régler. Je veux juste, par contre, je vais défendre un petit peu Bill O'Brien, si tu me le permets, Jean-Nicolas Gagné, parce que de ce que je voyais sur les réseaux sociaux aussi, là, tu sais, dès que quelqu'un se fait mettre dehors, c'est comme si c'était la pire merde qui existait sur Terre. Bill O'Brien, il a quand même, selon moi, un bilan positif comme entraîneur-chef avec les Texans. Sa fiche est dans le positif. 52 victoires, 48 défaites. Il a quand même gagné sa division 4 ans sur 6. Oui, c'était pas la meilleure division, surtout dans ses premières années, mais il l'a quand même fait. C'est ça le but comme entraîneur-chef. Faut que tu gagnes ta division. Il l'a fait 4 ans sur 6. C'est quand même pas mauvais. C'est de loin aussi l'entraîneur-chef qui vient de l'ère Bill Belichick, le Belichick Tree, comme on l'appelle. C'est celui qui a eu le plus de succès. C'est un gars qui, pour moi, j'ai quand même du respect parce qu'il avait remis Penn State sur la map aussi. Parce que c'est lui le premier entraîneur après Joe Paterno, après le scandale de Penn State. Oui, où il y a eu des sanctions très sévères de la NCAA. Puis lui, il a fait en sorte que Penn State est resté sur la map. Ça, je donne beaucoup de crédit pour ça. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il méritait son renvoi? Oui. Est-ce qu'il a fait des erreurs comme directeur gérant? Des erreurs monumentales? Oui. Est-ce que c'est le pire coach de la NFL? Absolument pas. Ça reste un entraîneur qui est quand même solide. Selon moi, il va se retrouver du boulot. Peut-être pas comme entraîneur-chef tout de suite, mais je pense qu'il va rester là, dans le giron de la NFL.
Ben, Stéphane, la bonne nouvelle, c'est que s'ils finissent dernier, ils ont des bons choix au repêchage, non?
C'est là tous les dégâts qu'a causé Bill O'Brien. C'est comme DG, comme Jean le disait. Écoute, il a été obligé de réparer ses erreurs par d'autres erreurs. Tu sais, tu laisses aller le bloqueur Dwayne Brown. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses quand tu te rends compte que ta ligne offensive est pitoyable? C'est qu'il faut que tu ailles chercher un Laremy Tunsil à grands coups de choix au repêchage. Ça a été le cas avec d'autres transactions comme ça là, qui sont ajoutées par la suite. Ce qui fait que la banque d'espoir des Texans est sérieusement hypothéquée. C'est les Dolphins qui sont morts de rire en ce moment. Parce que c'est eux qui détiennent la sélection de première ronde et peut-être même le choix de deuxième ronde, je pense.
Oui, première et deuxième.
Donc, eux autres sont morts de rire. Puis c'est là où tu vois l'ampleur des dégâts. Ça a été des mauvaises décisions en termes de gestion de personnel. Tu sais, tu laisses aller Hopkins, tu vas chercher Brandon Cooks. Écoute, là, c'est pas 4,30 sous pour une pièce là, en bon français. C'est loin d'être l'équivalent. Ça a été beaucoup plus difficile, puis c'est ça qui entache son dossier. Ça n'empêche pas que, comme entraîneur, il a accompli de bonnes choses. Par contre, il semble-t-il qu'il y avait de plus en plus de conflits de personnalité dans le vestiaire. Est-ce que c'est juste l'usure du temps ou c'est le bonhomme en question qui gérait mal ses émotions avec les joueurs? Ça, l'avenir nous le dira. Mais il y a une chose qui était inquiétante aussi cette année du côté des Texans, c'est de voir l'attaque stagner, même régresser.
C'est le jeu de Deshaun Watson. C'est supposé être un des meilleurs carrières dans la NFL, puis présentement, c'est difficile. Donc, il faut absolument relancer ce gars-là le plus rapidement possible. Ouais. C'est la clé des Texans.
OK, en tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'Adam Gase est encore coach et pas Bill O'Brien à l'heure où on se parle. C'est quand même un exploit de Gase dans ce domaine-là.
Aucun doute.
Écoutez, les boys, là, on va passer au troisième essai tout de suite parce que c'est ce qui va marquer la semaine dans la NFL. C'est la COVID, là. Il y a encore des nouveaux cas en Nouvelle-Angleterre et les Titans qui voient leur match compromis. On va faire des scénarios hypothétiques, là. D'abord, peut-être y aller avec la situation en ce moment Alors qu'on enregistre le podcast, Stéphane, qu'est-ce qui se passe dans la NFL avec la COVID?
Ben écoute, mercredi matin, on apprend que Stephon Gilmore, quand même le joueur défensif de l'année 2019 dans la NFL, c'est quand même pas rien. Excellent demi de coin des Patriots. Il se fait un peu brasser cette année, là, mais quand même, ça demeure un joueur clé pour cette organisation-là qui est atteint de la COVID. Les Titans, on parle maintenant de 2 nouveaux tests positifs. Ça, c'est très, très, très dommage comme nouvelle parce que les Titans, il n'y avait plus de nouveaux cas depuis maintenant quelques jours, s'apprêtaient à retrouver leurs installations, leur site d'entraînement. Et puis là, tout tombe à l'eau. Il y a un match qui a été annulé déjà contre les Steelers. On parle du prochain contre les Bills qui pourrait être compromis potentiellement. Écoute, là, on parle pas d'un ou deux cas chez eux. On est rendu à 20 de cas parmi les joueurs et le personnel d'entraîneurs. Ça va être très difficile de jouer ce match-là. On voit à quel point la propagation peut se faire vite. Puis on en vient à se dire, est-ce que la NFL a tout fait ce qu'il fallait? Est-ce que c'est plutôt les protocoles étaient bons, mais l'équipe les a pas suivis avec la rigueur exigée? Là, il y a une enquête qui est en cours à ce compte-là là, du côté de la NFL. Puis la Ligue a promis aussi des sanctions beaucoup plus sévères si elle découvre des manquements au protocole. On parle même de pénalités là, pouvant aller jusqu'à déclarer forfait pour un match, des pertes de choix au repêchage, etc., etc. Donc, ça va frapper dur dans les prochaines semaines potentiellement. Mais je suis pas convaincu qu'il y a une solution miracle. Je vois pas comment, même si tu essayais d'installer une bulle dans la NFL, comme on le fait dans la NBA, premièrement, il est trop tard. Mais deuxièmement, il y a beaucoup plus de monde impliqué dans une équipe de football que dans d'autres sports comme le hockey ou le basket ou le soccer. Écoute, ça va être très, très, très compliqué, peut-être en série. Mais en ce moment, là, je vois pas de solution miracle pour essayer de contrer cette bébite-là.
Ben, mettons qu'on fait un peu des scénarios hypothétiques. Là, on joue à, si on est Roger Goodell. Là, Stephon Gilmore sera pas là en fin de semaine, clairement. Mais c'est pas, mettons, Patrick Mahomes ou Lamar Jackson. Mais le jour où des grandes vedettes qui font une différence dans le match, puis c'est arrivé que Cam Newton hein, pourrait le plaider quasiment en fin de semaine, mais à quand on annule un match? À quel moment on décide d'annuler le match puis de le tenir pareil s'il manque un ou deux joueurs?
Ben écoute, Jean, tu peux y aller si tu veux, vu que...
Ben, c'est une très bonne question. Moi, je pense que tu suis les protocoles que tu as mis en place pour ça. Tu déroges pas nécessairement là, tu déroges pas de ton plan dépendamment si c'est une grande vedette qui est affectée ou non. C'est ça la vérité. Il faut que ça soit une question d'équité. C'est sûr que présentement, les Pats, ils n'ont pas pigé premier dans le succès COVID parce que ça reste que c'est un des meilleurs joueurs défensifs de la NFL. Pis c'est ton carrière partant. Puis excuse-moi, mais les Pats ont joué un super match contre les Chiefs de Kansas City. Ils ont eu une chance de gagner avec Brian Hoyer. Sérieux, là.
Ça nous a démontré tout le génie de Belichick encore.
Ah ouais, moi,
c'est le club le mieux coaché de la ligue. Il n'y a pas de
bêtises. On se demandait si Patrick Mahomes était humain. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'arrêter? Puis Bill Belichick est arrivé là encore une fois. Puis il a démontré. Ben, c'est comme ça qu'on l'arrête, tout simplement. Ou c'est comme ça qu'on le ralentit, du moins. Donc, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est une question d'équité. C'est pas parce que t'as un joueur vedette ou non que le match devrait être disputé ou pas. Tu suis ton protocole. Si ton protocole dit qu'il faut que le match soit reporté, ben tu le reportes. Si ça va, ben tu le joues comme ça a eu lieu en fin de semaine entre les Chiefs puis les Pats, le match a été déplacé lundi soir.
Tu sais, pour le jouer, il faut que tu sois convaincu qu'il n'y a pas de cas positifs qui s'accumulent. Tu sais, comme les Titans, c'est ça le problème. Il y aurait beau avoir 2 joueurs vedettes, admettons que Derrick Henry et Ryan Tannehill sont touchés, mais s'il n'y a pas d'autres joueurs touchés et que les tests reviennent négatifs jour après jour, tu peux pas dire on fera pas jouer les Titans, ils n'ont pas leurs 2 joueurs vedettes. T'sais, ça marche pas comme ça, tu peux pas faire ça. Au même titre que si ça arrive aux Chiefs, à Patrick Mahomes ou Lamar Jackson n'est pas là pour les Ravens, si c'est les seuls cas dans l'équipe, tu te dois de jouer le match comme les Patriots l'ont fait. T'sais, on a tous souffert de voir le spectacle de Brian Hoyer et Jarrett Stidham. mais c'est la vie. Alors que les Titans, dans un cas où tu as 18-20 joueurs et entraîneurs qui sont affectés par le virus, ça devient très difficile de te préparer adéquatement puis d'avoir assez de joueurs sur le terrain, la première des choses. Donc, faut voir. Les joueurs sont éligibles à revenir s'ils n'ont pas eu de symptômes après 2 tests négatifs. S'ils ont eu des symptômes, là, je pense que c'est une période de 10 jours minimum. Donc, c'est compliqué à gérer. Puis à chaque fois qu'on pense qu'une éclosion est terminée, ben tu le vois dans le cas de Tennessee, ça peut prendre plusieurs jours la période d'incubation avant que le virus se manifeste. Là, est-ce que tu as contaminé d'autres équipes? Est-ce que ces équipes-là, tu sais, je vois des images qui commencent à circuler sur Twitter. À la fin du match, il y a eu une grosse accolade museau à museau entre Stephon Gilmore et Patrick Mahomes, là, cette semaine, lundi. On va-tu apprendre dans, je sais pas, moi, 4-5 jours que Mahomes est touché aussi? Pour l'instant, les tests chez les Chiefs reviennent négatifs, ce que les premières nouvelles qui sortent. Mais il y a toujours une période de quelques jours là où il faut surveiller l'évolution. Ça, c'est pas très rassurant.
Ouais, l'autre point, c'est moi je pense que les événements actuels font en sorte que la NFL étudie, selon moi, la possibilité d'être dans une bulle pour les séries éliminatoires. Je dis pas que ça va se faire, mais je dis que c'est quelque chose qui, moi, je pense, qui est sur la table, selon moi, présentement. On va voir ce que ça va donner. Ouais, puis il reste encore. Il reste encore un peu de flexibilité aussi dans le calendrier. Pour l'instant.
Mais donc, trop peu, à mon avis. Moi, c'est la question que je me pose tout le temps là-dedans. La NFL a bien fait de commencer sa saison. Moi, il y en a qui me disent « Ah, la NFL aurait pas dû y aller. » Moi, j'étais pour que la NFL se donne au moins cette chance-là. Mais je pense qu'ils n'ont pas assez démontré d'ouverture, de flexibilité dans leur calendrier dès le départ. D'accorder plus de semaines de bail, possiblement. De se donner là, vraiment plus de lousse. Parce que là, c'est très serré, très étanche comme calendrier.
Ouais, c'est un bon point. Ils ont été chanceux avec les Titans et les Steelers parce que les deux avaient leur bail une semaine, une après l'autre. Mais
à un moment donné, tu vas accommoder tout ça comment? Là, si ça vient, là, il y a plein de chassés croisés là-dedans. Telle équipe a vu telle autre. Là, bon, ça va devenir très dur à agencer pour que tout le monde soit content aussi. Là, parce que des calendriers qui se déplacent comme ça, qui se défont là, à la petite semaine, c'est pas évident pour les équipes à gérer. Je me demande juste s'il aurait dû faire preuve de plus de flexibilité. Tu sais, la NFL, depuis le début, s'est placée un peu au-dessus de ça en disant « On va avoir une saison, on va jouer devant des fans, tout va être comme normal. » C'est correct d'avoir l'attitude d'aller fighter un peu. Ça, j'haïs pas ça. Mais de le faire en te donnant un coussin où tu peux un peu plus manipuler le calendrier, je pense que ça aurait été nécessaire.
Et honnêtement, le problème, c'est, on le voit, c'est si la COVID affecte une équipe puis ne lâche pas cette équipe-là comme ça a l'air d'être le cas avec des Titans, c'est là que tu viens dans le trouble. Parce que là, si on annule encore en fin de semaine le match des Titans, ben là, tu n'as plus de marge de manœuvre avec cette équipe-là. Là. Qu'est-ce que tu vas faire pour la suite des choses? Ça devient tout un problème à gérer.
Ben, merci les gars. Puis les gens aussi qui ont des problèmes à gérer avec tout ça, c'est les propriétaires d'équipes de fantasy football.
Oui, c'est problématique.
Ils ne pensent pas à nous, là.
Non, moi j'ai perdu ma confrontation en fin de semaine, mais c'est de ma faute, Jean-Nic, parce que je croyais pas que le match des Pats allait avoir lieu entre les Chiefs, donc j'ai benché Patrick Mahomes et ce fut une décision mortelle.
Bon, ben tu vois, au moins tu vas savoir te reprendre la semaine prochaine. Patrick Mahomes devrait jouer, on l'espère. OK les gars, on fait une pause. Et après la pause, c'est le 4e essai, nos questions à rafale. On est de retour à la zone payante. C'est le 4e essai, les gars. On y va comme d'habitude. On dégage pas à 4 essais et 2. Hein?
Non, on y va.
Ça, c'est un excellent spirit. OK, les boys, des questions à rafale. Nouvelle semaine, même question. Est-ce que, si vous êtes le coach des Bears, vous faites jouer Nick Foles ou Mitch Trubisky?
Moi, je continue avec Foles, mais je vais te donner un peu la même réponse que la semaine passée. Je suis pas plus rassuré. Moi, pour moi, Nick Foles, c'est un gars qui a eu une épopée extraordinaire avec les Eagles. Je lui enlèverai jamais. Il mérite probablement là, tous les honneurs imaginables, sa statue et tout à Philadelphie devant le stade. mais ça reste à date un joueur qui est trop bon pour être un réserviste et pas assez bon pour être un partant sur une base constante. Il te donne pas le football que tu devrais avoir. Puis Trubisky, ça fait un bout de temps maintenant qu'on sait que c'est un peu le même problème. Donc, c'est très possible que les Bears jouent à la chaise musicale à quelques reprises cette année. Un vaut l'autre dans mon esprit.
Moi, je continue avec Nick Foles. Puis pour moi, Foles est supérieur à Trubisky comme carrière. C'est la raison pourquoi il est sur le terrain. La seule chose que je pourrais considérer, c'est dans les situations de court gain, ça me dérangerait pas d'utiliser Mitch Trubisky dans ces situations-là. Parce qu'il est capable de courir, il demeure une menace au niveau terrestre. Tu pourrais t'en servir, parce que Nick Foles, honnêtement, ce n'est pas une menace au niveau terrestre. Donc, c'est la seule petite bémol que je l'amènerais. Mais pour moi, Trubisky, en dehors de ça, il reste sur le banc.
Est-ce qu'on va avoir un bon match enfin ce jeudi soir?
Ben, en tout cas, on a les équipes pour.
Oui, exact.
On a les équipes pour. Tu sais, c'est parce que là, on a eu Broncos, Jets, on a eu vraiment là, des équipes qui s'illustrent pas, qui sortent pas du lot. C'est sûr que là, on regarde ça avec du recul, puis on se dit finalement, Browns, Bengals, c'était pas si mauvais là, parce que les Browns sont en train d'éclore. Mais c'est pas des équipes nécessairement qui attirent là cette semaine avec les Bucks de Tom Brady qui jouent du bon football actuellement. Il y a tout pour un bon match du jeudi soir. Maintenant, est-ce que les Bears vont être capables d'aller marquer des points? Ça, c'est la grande question là, dans mon esprit. Là, mais,
est-ce que c'est le premier duel entre Tom Brady et Nick Foles depuis le Super Bowl?
Je pense que oui.
Oui, selon moi, oui. C'est une bonne question. Écoute, je ne l'ai pas
vu. Oui.
Je suis pas mal certain que oui, honnêtement. Je pense pas qu'il y a eu de reprise du Super Bowl. Puis honnêtement, je le vois pas comme ça pour moi. C'est pas une reprise. Les deux carrières sont avec des équipes différentes. C'est deux réalités complètement différentes. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, j'aime la confrontation. Ça reste une confrontation qui est un petit peu plus défensive que ce qu'on voit présentement dans la NFL. Les deux équipes ont des bonnes défenses. Donc, on va voir ce que ça va donner.
OK. Qui serait votre MVP? On a 4 semaines de fête. Quel est votre joueur le plus utile à son équipe après le quart de la saison?
C'est une excellente question. Moi, je vais peut-être surprendre du monde. Russell Wilson est un choix que j'ai aucun problème avec. Moi, j'ai un A, un B, mais je vais y aller avec Aaron Rodgers. J'aime la facilité présentement des Packers à l'attaque. Ça n'a pas l'air compliqué de jouer au football présentement pour le QB1 des Packers. Ça a l'air facile. 13 passes de toucher, aucune interception. C'est-tu pas un beau ratio, ça?
Ah non, puis il nous présente des nouveaux alliés rapprochés, là, des nouveaux tight ends. Franchement, il n'y a pas grand monde à lancer.
Mais ce que j'ai aimé, c'est que avec les Packers, c'est que Rodgers performe très bien, puis il n'a pas eu son personnel partant. Il y a eu des blessures au niveau des receveurs. Ça n'a absolument rien changé du côté d'Aaron Rodgers. Puis présentement, c'est le carrière qui a le plus de succès avec les passes de 40 verges et plus dans la NFL. Donc, moi, c'est mon choix. Russell Wilson est un choix qui j'ai aucun problème avec. Puis je pense que tu peux même faire un cas pour Josh Allen, parce que Josh Allen, lui aussi, est en feu. Mais pour moi, c'est définitivement ces trois quarts arrière-là que je pense que tu dois considérer.
Steph?
Ouais, moi je reste avec Russell Wilson parce que je trouve que comparativement aux Packers, il y a une équipe moins complète à Seattle. Je pense que Russell Wilson fait plus l'équipe finalement là, parce que tu regardes la ligne offensive, c'est so-so. La défensive, c'est très très ordinaire cette année. Oui, il y a Jamal Adams qui vient ajouter du punch puis du piquant là. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun pass rush du côté des Seahawks. Donc, il doit accomplir beaucoup plus par lui-même. C'est pour ça, moi, qui est mon choix. Mais avant que j'en parle, moi, j'allais dire, il y a un joueur qui se rapproche très, très, très dangereusement de Wilson, qui souffre dans le coup actuellement, puis c'est sans contredit Aaron Rodgers. Josh Allen, oui, mais Aaron Rodgers joue tellement du gros football en ce moment que c'est vraiment une compétition très serrée entre les deux. Là. J'ai hâte de voir à la mi-saison, on va sûrement en reparler, mais en ce moment, c'est à peu près nez à nez, je trouve, dans la course.
Ah ouais, c'est vraiment serré. Puis Aaron Rodgers, tu fais C'est un bon point, Stéphane. C'est le carrière le mieux protégé présentement dans la NFL. Il y a 3 sacks, puis on dirait qu'il n'y a aucune pression autour de lui. Là. Fait que c'est chapeau, honnêtement, à l'unité de la ligne à l'attaque des Packers.
Russell Wilson, curieusement, il a toujours eu quand même des bonnes saisons. Il n'a jamais eu un seul vote pour MVP de l'année depuis le début de sa carrière dans la NFL. C'est quand même surprenant. Qui serait la recrue de l'année pour vous?
J'ai Joe Burrow pour l'instant. Carrière des Bengals, je trouve qu'il fait un travail exceptionnel comme pivot recrue. Puis il faut dire aussi, il tombe avec les Bengals. Qui aurait aimé ça, tomber avec les Bengals? T'es repêché, tu t'en vas à Cincinnati. C'est pas nécessairement la meilleure nouvelle que tu pouvais avoir parce que au niveau du personnel, c'est pas un alignement qui est très dangereux. Je parle pas nécessairement à l'attaque, mais de façon globale, c'est pas un alignement qui fait peur, là. J'ai Justin Jefferson aussi à l'attaque qui a été très impressionnant avec les Vikings aussi jusqu'à maintenant, mais mon choix c'est Joe Burrow.
C'est intéressant que tu mentionnes Jefferson, Jean, parce qu'il commence à éclore depuis 2 semaines. On le mettait pas vraiment là, dans un rôle de partant sur le terrain lors des 2 premières semaines, donc il ne pouvait pas vraiment se mettre en valeur. Là, il est en train d'exploser de l'autre côté d'Adam Thielen. Moi, j'ai pas le choix d'y aller avec Burrow aussi. Tout simplement parce que avec à peu près le même alignement que l'an passé, là, si tu compares là, la version des Bengals 2019 et 2020, oui, il y a des ajouts ici et là, comme dans toute équipe, là, mais c'est sensiblement là, le même noyau. Les Bengals sont passés d'une équipe absolument lamentable à une équipe plus que respectable cette année. Là. Ils se battent dans tous leurs matchs. Du côté de l'attaque, tu peux plus les prendre à la légère. Joe Burrow qui joue, par contre, derrière une ligne offensive qui fait dur, tu sais, de match en match, il prend des coups. Moi, la seule chose que je me demande, c'est à ce rythme-là, est-ce qu'il va finir l'année? Il joue très bien, mais il mange des volées, ça n'a pas de sens. Faudrait au moins que Joe Burrow évite les coups qu'il peut éviter, parce qu'il en mange à chaque semaine, il se fait mettre sous pression à chaque jeu, il encaisse des sacs. Bon, cette semaine, ça a été un peu moins pire, il y en a eu un, je pense, des sacs, un sac contre lui. Mais il va falloir qu'il apprenne à éviter les coups qu'il peut éviter, sinon sa carrière pourrait être écourtée, là. Mais en ce moment, il joue du gros football, puis il faut penser évidemment à Justin Herbert. On s'attendait pas de le voir si tôt dans mêlée. Il joue extrêmement bien pour les Chargers. C'est un autre joueur là, qui est à surveiller le carrière pour les prochaines semaines.
Au niveau défensif, il y a eu vraiment moins de joueurs recrues qui se sont illustrés. Pour moi, ça reste Chase Young pour l'instant, même s'il a raté des matchs.
On renouvellera pas nos licences de prophète. La semaine dernière, on parlait des coachs qui pouvaient être congédiés cette semaine. On est 0-3. Puis c'est plutôt Bill O'Brien qui a été congédié. Mais Adam Gase, Quinn et Patricia, est-ce que l'un de ceux-là est le prochain à se faire congédier d'après vous?
Écoute, ça reste quand même des bonnes probabilités. Là. Ça va pas très bien pour les 3 entraîneurs-chefs. Moi, Adam Gase, je vois pas encore pourquoi il y a un boulot, honnêtement. On commence vraiment à se poser des questions sur le développement du carrière des Jets. On est en train de se poser la question, est-ce que c'est un bust? Ça, pour moi, ça reste... Adam Gase a un rôle très important là-dedans, puis j'ai comme l'impression qu'il est en train
de... C'est supposé être un QB Whisperers, là, tu sais, là, les supposés
exactement.
Coachs qui sont proches de leur carrière. Là, puis qui...
Moi, c'est ça qui profondément me fait mal présentement avec Adam Gase. C'est pourquoi il a été engagé? Ben, c'est pour justement développer le carrière, puis son carrière vedette, puis développer l'attaque. Présentement, les Jets, c'est horrible à l'attaque. C'est sûr que au niveau des receveurs, là, honnêtement, ils sont tellement pauvres, font vraiment pitié. L'autre point, quand tu es un entraîneur-chef et tu es engagé pour quelque chose puis tu le fais pas, moi, c'est ça qui me dérange beaucoup. Matt Patricia, et moi, je l'embarque également dans le même sens, c'est supposé être un entraîneur défensif, un génie défensif. Puis honnêtement, depuis qu'il est en place, je pense que la défensive des Lions est pire que... avant lui. Donc, ça devient extrêmement problématique, là. Ta principale force, t'es pas capable de l'amener avec ta nouvelle formation. C'est sûr que t'es dans le trouble au niveau de ta job.
Steph?
Ouais, c'est Gase le prochain, là. Ça fait pas de doute dans mon esprit. Mais Atlanta, il faut surveiller Dan Quinn. Il y a quelque chose qui a vraiment fait mal cette semaine. On a vu depuis le début de la saison, là, évidemment, là, les effondrements épiques des Falcons au quatrième quart. Ça posait déjà problème. La défensive qui est pas capable d'attraper une grippe. Mais on voit que l'attaque même commence à s'effondrer. Là. Cette semaine, c'était particulièrement pas beau contre les Packers. 16 points, je pense, au final. C'est pas le genre d'attaque auquel on nous a habitués là, du côté d'Atlanta. Tu sais, s'il y avait au moins un point rassurant, c'est que ça fonctionnait. Donc, tu pouvais toujours te dire, les Falcons, c'est une question de temps avant qu'ils débloquent. L'attaque est tellement forte. Mais là, ça semble s'écrouler d'un peu partout dans cette équipe-là. Donc, Dan Quinn, ça va être à surveiller là, prochainement.
OK, rapidement, le retour de la chronique déprimé, pas déprimé. Je vais vous poser des questions. Vous me dites si cette, je vais venir à une personne, vous me direz si cette personne-là a des raisons d'être déprimée ou pas déprimée. On y va avec Kyler Murray.
Pas déprimé pour moi parce que Kyler Murray, bon, excellent début de saison. Deux matchs ordinaires là, depuis deux semaines. Mais s'il fallait dans la NFL, tu sais, t'affrontes de grosses défensives ou de gros clubs à chaque semaine, même contre un club comme les Jets, les Giants, tu peux rien prendre pour acquis. On l'a vu, les Giants, cette semaine, ils ont donné une bonne lutte aux Rams. Donc, c'est normal de connaître des moments un peu moins à la hauteur des attentes. Kyler Murray, je suis pas inquiet. Il y a aucune raison d'être déprimé. Beaucoup trop tôt pour parler de ça. Pour moi, c'est pas une question.
Non, il est jeune et en santé et fringant, donc j'ai aucun problème moi, avec Kyler Murray. Devrait se ressaisir.
Dak Prescott.
Il commence à se poser des questions. Je dirais pas qu'il est déprimé, mais il commence à se poser des questions. Moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Dak Prescott, pour moi, il faut qu'il se regarde dans le miroir parce que oui, présentement, écoute, il a battu, je pense, des records de la NFL. Pour le nombre de verges après quatre rencontres, c'est pour moi un des records les moins impressionnants que j'ai vu là. Tu sais, il y a une raison pourquoi tu as battu le record, c'est que tu tires de l'arrière. Quand c'est important en début de match, t'es pas présent. T'es présent quand ton équipe tire de l'arrière pour l'instant. C'est une bonne nouvelle parce que t'abandonnes pas. Mais qu'est-ce que tu fais quand c'est égal ou en début de rencontre? Il y a beaucoup de difficultés. C'est là qu'il faut qu'il s'améliore, Dak Prescott. Donc, c'est pas nécessairement un cas de déprime, mais c'est un gars qu'il faut qu'il se regarde quand même dans le miroir, malgré ses statistiques ronflantes.
Ouais, je suis pas mal d'accord avec ça. Dak Prescott, dans le fond, moi, je suis pas de ceux qui vont le planter et dire que c'est pas un bon corps arrière. Il y a trop de gens qui s'amusent à faire ça avec les corps arrière de Dallas au fil des ans. Quand c'était Tony Romo, là, c'était le pire des jambons. Puis, tu sais, c'était carrément exagéré là, les évaluations parce que ça fait un peu plaisir aux gens, je pense, de se moquer du corps arrière des Cowboys. Dak Prescott, c'est un bon corps arrière, mais il y a un élément moi qui m'inquiète. Il s'affiche dans les deux dernières saisons et de 1 victoire, 7 défaites quand il affronte une équipe avec une fiche gagnante. Tu sais. Il se lève pas encore là, dans les plus grands moments. Ça, c'est une tendance là que je voudrais le voir changer un petit peu. Évidemment, tu sais, vous allez me dire avec raison, c'est pas Dak Prescott qui perd ces matchs-là nécessairement. Il est mal entouré, il est pas supporté par sa défensive, etc., etc. Mais quand même, quand t'es le corps arrière d'une équipe, je pense qu'il faut que tu arrives à l'élever dans les grands moments, ce que d'autres corps arrière sont capables de faire là, à travers la ligue. Donc, Prescott, pas de raison d'être déprimé, mais je dirais qu'effectivement, tu as le bon terme, Jean. Il faut qu'il se regarde, faut qu'il s'évalue, faut qu'il se pose des questions. Je pense qu'il en est rendu là à ce
stade-ci. Tu sais, déjà que leur défensive est horrible ou atroce, ou mettez l'objectif que vous voulez, faut que tu les aides. La meilleure façon d'aider ta défensive, c'est de prendre les devants. Et ça, il l'a pas fait jusqu'à maintenant.
L'autre façon, c'est de pas engendrer des revirements. Là. J'en parlais tantôt, les Cowboys, c'est les maîtres à date cette année. Ils donnent le ballon à l'adversaire. Ça, faut que tu corriges ça aussi.
Est-ce qu'Anthony Auclair, qui fait son retour au jeu, doit être déprimé ou pas déprimé?
Ben, juste une précision. Il peut revenir au jeu à partir de cette semaine. C'est-à-dire qu'il a été mis sur la liste des blessés, le fameux IR. Mais cette année, les nouveaux règlements, c'est on spécifie qu'à partir de 3 semaines, tu peux quitter la liste des blessés. Donc, il peut revenir au jeu cette semaine, mais il faut noter, comme on le disait tantôt, les Bucks jouent jeudi C'est une courte semaine. Moi, je serais étonné qu'ils reviennent au jeu là, dès cette semaine. Je pense que je miserais plus sur la semaine 6. Je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est quand même compliqué de revenir un jeudi soir comme ça. Là. Il semble qu'il a toujours pas pratiqué avec les Bucks, donc ça reste à surveiller. Mais chose certaine, puisque la question c'est déprimé ou pas, il y a aucune raison au clair d'être déprimé, d'autant plus que tu souhaites pas de malheur à personne dans ton équipe, mais O.J. Howard vient de tomber au combat, fini pour l'année, là, c'est déchiré le tendon d'Achille, malheureusement. Ce que ça veut dire pour Auclair, c'est plus de temps de jeu à l'attaque. On sait qu'il était utilisé beaucoup sur les unités spéciales, mais au seul match qu'il a joué cette saison, à la semaine 1, il n'avait pas été utilisé là, à l'attaque. Donc, ça lui ouvre une fenêtre d'opportunité intéressante.
Moi, je pense qu'il est très enthousiaste. Il est tout le contraire d'être déprimé. C'est un fier compétiteur, Anthony. Je pense qu'il a juste hâte de retrouver le terrain. Puis j'ai l'impression que justement qu'avec la blessure à Howard, je pense pas qu'il va jouer, mais j'ai l'impression que ça se peut qu'il soit habillé en fin de semaine. Donc j'ai hâte de voir. C'est sûr que dans la NFL, c'est rare d'habitude que tu es habillé et que tu n'es pas utilisé. Mais en tout cas, je serais pas surpris quand même que les Bucks veulent garder peut-être une petite police d'assurance.
OK, maintenant les gars, nommez-moi un joueur qui serait disponible dans la plupart des ligues fantasy football et que vous iriez chercher si vous étiez malin.
Moi, j'irais avec Dearness Johnson, porteur de ballon des Browns. Avec la blessure de Nick Chubb, on parle d'une absence d'environ 6 semaines. Je sais évidemment que Kareem Hunt va être le gars qui va avoir le gros des portées. Mais vous le voyez, je vous en parlais tantôt, les Browns, là, c'est une attaque qui va courir de 25 à 35 fois avec le ballon là, dans les prochaines semaines. Il va avoir du jeu pour Johnson. Écoute, il a frôlé la barre des 100 verges au sol face aux Cowboys en fin de semaine. Un joueur de profondeur, évidemment. Je suis pas en train de vous dire, allez chercher ce gars-là, vous allez planter vos adversaires. Mais ça peut être une police d'assurance intéressante. Là, un joueur de profondeur, si vous avez quelques flex à embarquer dans vos alignements à la petite semaine, c'est un joueur là qui peut être intéressant.
Écoute, moi, je vais y aller avec un bon vieux vétéran. Si tu es vraiment dans le trouble à la position d'ailier rapproché, pourquoi pas Greg Olsen, le vénérable Greg Olsen, qui a capté une passe de toucher la semaine dernière. Hey, c'est un party de vétérans. Amène Jason Witten aussi. Aucun problème. Party de vieux. Mais je pense que les deux peuvent te faire le boulot pour une petite semaine. Donc, pourquoi pas. Puis Jason Witten aussi, il est visé dans la fameuse zone payante. Donc, pourquoi pas. Tiens, on va se gâter.
OK, merci les gars. On fait une pause et après ça, c'est les prédictions de la semaine pour nos matchs de la NFL qui, j'espère, auront tous lieu.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
I got news for you, buddy. We're going to win the game, I guarantee you.
OK, on est de retour pour les prédictions. Donnez-moi donc au score de la semaine passée, les gars.
Écoute, on était, jusqu'à preuve du contraire, 42 en 63. Donc, on est 11 en 15 la semaine dernière. Donc, écoute, on garde c'est notre... C'est loin d'être une mauvaise semaine. Et c'est la même chose pour Stéphane et moi. On a exactement la même moyenne puis exactement le même score la semaine dernière, même si on prend pas toujours les mêmes équipes.
Ça va être une lutte à finir, mon Johnny.
Oui, monsieur.
OK, on va suivre ça avec intérêt, les gars. D'abord, cette semaine, peut-être que ça va commencer à vous séparer. On va commencer avec le match de jeudi. Les Bucks contre les Bears. The Bees.
Moi, je joue avec les Bucks. Tu sais, quand tu regardes les Bucks, tu dis « Ah, Tom Brady, il est en feu, 5 passes de toucher. » Oui, mais les Bucks ont la 4e meilleure défensive de la NFL.
Ouais.
Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, non seulement tu as une bonne attaque, tu as une attaque qui peut te faire ramener aussi de... On l'a vu, Tom Brady, là, une autre fois, ramener son équipe au quatrième quart sur le chemin de la victoire. Mais tu as aussi une défensive qui met ton attaque dans des bonnes situations. Je pense que c'est ça qui va arriver en fin de jeudi soir. Les Bears n'ont pas le potentiel offensif pour, je pense, menacer les Bucks. Victoire de Tom Brady et sa bande par au moins un touché.
J'ai les Bucks aussi. Je pense que ça va être un match là, à pointage relativement bas. Je sais que tantôt, c'est drôle, on disait de prendre le over dans les paris. Ça, c'est ouais. Un match où je me méfierais. Puis je suis content, Jean, que tu amènes le point de la défensive des Bucks, parce que c'est sûr que sur papier, on se dit toujours « Ah, la défensive des Bears », puis tu sais, on a l'image là, des Bears dominants, puis tout ça. Je me demande cette année, moi, si les Bucks n'ont pas une meilleure défensive que celle des Bears, tu sais. Je suis rendu là, je trouve que c'est une défensive qui est vraiment... en ascension, j'ai moins aimé le match contre les Chargers, avec les Chargers qui ont pris une avance là, tôt dans le match. Mais cette défensive-là s'est ressaisie par la suite, a retrouvé ses moyens. En bout de ligne, je pense que ça va être la différence dans le match contre les Bears.
Les Panthers contre les Falcons.
Moi, j'ai les Panthers dans ce match-là. Principalement parce que les Falcons sont vraiment maganés en plus de... ils ont plein de problèmes. Puis en plus, ils ont celui-là à gérer. Dans la tertiaire, ça va pas bien. Ça allait déjà pas bien avant les blessures. J'imagine que les blessures n'aideront pas la cause. Et j'aime beaucoup ce que Matt Rhule fait présentement comme entraîneur-chef des Panthers. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est unie. On sent que la chimie est présente dans cette équipe-là. Et pour lui, comme entraîneur-chef, quand il coachait dans la NCAA, c'était extrêmement important. Je pense qu'il a amené ce concept-là, dire, écoute, on va être unis, on va l'esprit d'équipe, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'il bâtit dans ce sens-là. Et j'aime beaucoup les Panthers. Et qui l'aurait dit, si ça s'avère vrai, les Panthers vont avoir une fiche de 3 victoires, 2 défaites, messieurs.
Steph?
Ouais, c'est là où j'arrive pas à croire que les Panthers, après 5 matchs, pourraient avoir une fiche gagnante. Je crois pas non plus aux Falcons. C'est bien difficile. Faut y aller des fois avec des surprises là, dans nos prédictions. Je pense que si les Falcons gagnent ce match-là, ce serait une certaine surprise, là, en tout cas dans une certaine mesure. Je vais y aller pour eux autres. C'est tellement pas avec confiance que je me prononce en ce moment, vous l'aurez compris, mais j'ai le feeling qu'à un moment donné, ils vont en donner une à Dan Quinn. Tu sais, Dan Quinn, on parle beaucoup de lui là en mauvais termes ces temps-ci, mais de tout temps, ses joueurs ont semblé l'apprécier. Tu sais, je pense pas que c'est un problème là de cohésion entre les joueurs et l'entraîneur à Atlanta. Donc, j'ai le feeling qu'à un moment donné, ils vont essayer d'y en donner une grosse pour sauver sa job, du moins temporairement.
Mais en tout cas, je pense pas qu'ils vont compter sur Julio Jones pour le faire. Là. Ça reste un gros morceau.
Non, il est revenu au jeu et il s'est reblessé. C'est vraiment pas le fun à date ce qu'on voit avec Julio Jones. Là. Mais coudonc, ils ont d'autres armes. Puis les Falcons ont été très vulnérables là, contre les puissantes attaques aériennes jusqu'à maintenant. T'sais, que ce soit les Seahawks, que ce soit les Cowboys, que ce soit les Packers là, lundi dernier. Les Panthers, c'est une bonne équipe, ils construisent quelque chose de bien, mais je pense pas qu'on peut parler d'une attaque aérienne intimidante comme celle que je viens de mentionner. Donc, ils devraient être en mesure là, quand même de sauver la face de ce côté-là.
OK, les gars, un peu plus rapidement, parce que ce match-là sera pas très serré si on en croit les preneurs au livre. Las Vegas, les Raiders qui s'en vont à Kansas City, au Missouri, pour affronter les Chiefs.
Les Raiders, définitivement, ils sont pas capables de faire les gros jeux en défensive.
Oui, décevant de ce qu'on voit des Raiders depuis 2 matchs, ils étaient beaucoup mieux partis. Je pense qu'ils vont continuer un peu dans cette lignée-là. Donc les Chiefs, là, un match confortable pour eux autres.
Un autre match qui risque peut-être d'être pas très serré, c'est les Rams qui affrontent l'équipe de football de Washington.
Ouais, ben écoute, même si les Rams ont été vraiment peu étincelants face aux Giants, ça demeure que ça reste une équipe de la NFC East. Et c'est 3 victoires, 12 défaites, 1 match nul présentement, l'affiche de cette division médiocre. Et les Rams vont le gagner, tout simplement.
Ouais, Rams ici aussi, pas de surprise de ce côté-là. J'ai hâte de voir seulement si Chase Young va être de retour du côté de Washington. C'est à peu près le seul élément qu'il y a d'intéressant à surveiller du côté de cette équipe-là. Puis, on chuchote de plus en plus que Dwayne Haskins, si ça continue, pourrait éventuellement visiter le banc, le corps arrière partant là, de Washington. Donc, situation à surveiller.
C'est qui est derrière lui?
Ben là, t'as Alex Smith et Kyle Allen. Il semble que c'est Kyle Allen qui jouerait. Mais je voudrais tellement voir Alex Smith sauter sur le terrain. Tu sais, qu'est-ce que tu vas aller chercher de plus en mettant Kyle Allen dans ma tête? Je comprends pas. Moi, je donnerais le ballon à Alex Smith si jamais ça foire vraiment avec Haskins. Je continuerais, je serais patient avec Haskins, par contre. Cela étant dit, il est pas très bien entouré là, du côté des receveurs. Faut que tu y donnes encore le ballon. Mais si tu en arrives à la conclusion que c'est vraiment pas l'homme de la situation, s'il vous plaît, faites-nous plaisir, messieurs. Allez-y avec Alex Smith.
Le miraculé.
Ben oui, ce serait une histoire incroyable. Les Jaguars contre les Texans qui vont avoir un nouvel entraîneur.
Ben, la question, c'est comment Houston va réagir. Moi, j'ai vraiment l'impression que Deshaun Watson va simplement exploser. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui marchait pas avec Bill O'Brien. Ça va être une tonne de pression pour lui. Je pense qu'il est disparu de ses épaules. J'ai l'impression qu'il va avoir une très très grosse rencontre. Victoire des Texans, même si j'ai pas confiance dans cette équipe-là, je pense que Watson va exploser.
Ouais, j'ai exactement le même feeling. Souvent, à long terme, je suis pas sûr que les Texans vont être capables de replacer leur saison. Là, ça pourrait être une saison longue. Mais à très court terme, l'effet de renvoyer un entraîneur a comme un effet de coup de fouet sur les troupes. Là. J'ai l'impression que c'est ce qu'on va voir en fin de semaine. Donc, première victoire pour les Texans.
Les Jets contre les Cards à New York sur le terrain damné.
Écoute, j'ai vraiment, vraiment failli choisir les Jets, mais je me suis ressaisi. Oh. Écoute, ils sont juste trop mauvais partout, les Jets. En plus, ils sont indisciplinés. En défensive, ils prennent plein de punitions pour Rudess. Je pense que les Cards vont quand même avoir raison de l'équipe de New York, mais des fois, ça prend une surprise. Ça fait light, ma surprise, mais c'est pas celle.
Ouais, les Cards, ça va pas très bien depuis 2 semaines. Affronter les Jets, écoute, tu t'en vas chez le médecin, tu dis « Je suis malade, avez-vous un remède? » C'est exactement le médicament que t'attends. C'est parfait là, que les Jets tombent dans leur trajectoire dans ces moments plus difficiles. Donc, victoire des Cards.
Les Eagles qui ont surpris la semaine dernière contre les Steelers à Pittsburgh.
Moi, j'ai les Steelers. J'aime le fait qu'ils étaient en bail la semaine passée. Je pense qu'ils vont être, ils vont avoir hâte de toucher au terrain face aux Eagles. Je pense que, puis les Eagles, j'ai aimé leur match face aux Niners. Ils ont dominé les fronts, mais je pense que ça va être plus dur de faire ça face aux Steelers. Victoire serrée des Steelers.
Ouais, c'est un match moi qui m'a fait réfléchir honnêtement parce que les Steelers, historiquement, c'est le genre de match qui sont très 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 capables d'échapper. Souvent, ils s'abaissent un peu au niveau de leur compétition. Ils sont à leur meilleur contre les grosses équipes. Quand il arrive une équipe un peu amochée, que personne ne s'attend qu'ils gagnent, ben, les Steelers jouent du très mauvais football, très sloppy souvent dans ces matchs-là. Mais finalement, moi, j'en viens à la conclusion que la ligne offensive des Eagles est tellement, tellement, tellement hypothéquée. Sont rendus à leur 2e, 3e, 4e joueur à certaines positions. C'est pas des farces, c'est pas exagéré ce que je dis là. Vous vérifierez. Ça fait dur, ça saigne de partout. Puis les Steelers, évidemment.
La semaine passée, c'est presque la CFL là, qui a gagné le match pour.
C'est vraiment. Là, ils sont rendus avec leurs joueurs de rugby, entre autres, là, comme bloqueurs à gauche.
Ouais.
Les Steelers, avec le front défensif qu'ils ont, devraient se faire un festin. Je continue de croire que ça va être un match serré, cependant, mais c'est le front défensif des Steelers qui va faire les gros jeux au moment important.
Les Ravens reçoivent les Bengals et on leur donne aucune chance aux Bengals. On donne 2 touchés d'avance, 2 touchés, favoris par 2 touchés par les Ravens à Vegas. Vous autres, vous donnez quoi?
Dans ce sens-là, je prendrais les Bengals pour les points. Je pense que ça va être peut-être plus serré que 2 touchés. Ouais. Ils se battent vraiment, vraiment bien, je trouve, les Bengals. Mais les Ravens vont gagner ce match-là. Je pense que la profondeur sur les fronts va faire la différence.
Ouais. Puis j'ai l'impression aussi, là, rappelez-vous du match Browns-Bengals, il y a un jeudi soir, il y a 2 semaines. les Bengals qui avaient sorti l'armée de terre. Je pense que ça va être la même situation. Les Ravens ont le club pour courir d'en face des Bengals comme les Browns l'avaient fait. Ouais. Donc, victoire, l'écart est grand. J'avoue là, que les Bengals nous ont habitués à des matchs compétitifs dernièrement, mais j'ai l'impression que ça va être peut-être des moments très difficiles pour Joe Burrow. Peut-être ces moments là, les plus difficiles à ce jour dans la NFL.
Miami s'en va à San Francisco pour jouer contre les 49ers.
Écoute, j'ai les Niners dans ce match-là. À un moment donné, ils vont rebondir. Je pense aussi peut-être que ça va être le retour de Jimmy G. Donc, s'il est en poste, je vois pas pourquoi les Niners perdraient ce match.
Ouais, ben c'est ça. Les Niners, si Garoppolo revient, là, c'est même pas proche. C'est une question. Si Garoppolo est pas là, je pense que ça va être un match très serré. Là. Les Dolphins, quand même, qui donnent une opposition là, pas mal semaine après semaine. C'est pas encore le moment là, de ce qu'on voit des commentaires de Brian Flores de sortir Tua Tagovailoa, donc on va devoir patienter encore un peu, mais on sent tranquillement pas vite là, que ça s'en vient.
Et on regardait là, pour Tua Tagovailoa, il y a une séquence de matchs la semaine 10, 11, 12, 13, c'est Jets, by Jets, Bengals.
Tu fais bien de le noter, c'est un très bon point. Ça sera un moment parfait là, pour le lancer dans la mêlée sans qu'il se fasse scalper.
D'ailleurs, ils ont très bonne O-line cette année, les Dolphins. Les Broncos contre les Pats sans Gilmore, malheureusement, ou en tout cas, si c'est le seul joueur, ça sera peut-être un moindre mal.
Ouais, avec également Cam Newton qu'on ne connaît pas nécessairement s'il va être en place ou pas, mais malgré tout ça, je vais prendre le génie de Bill Belichick face à un carrière qui risque d'être un carrière recrue, Monsieur Rippon. Donc, écoute, je les Pats qui remportent ce match-là, même si ce serait Drew Lock qui serait là au poste de carrière. J'en ai rien à battre, je prends Bill Belichick. Belichick, tu vas me dire, Bill Belichick joue pas. Pour moi, c'est comme s'il jouait.
Non, mais il a pas fait juste des bons calls non plus en fin de semaine. Je sais pas si vous avez vu le quand il a commencé à crier après l'arbitre au lieu d'envoyer son challenge pour l'interception.
Finalement, il peut avoir quelques crampes au cerveau, notre Bill, mais reste qu'en général, ça demeure une valeur sûre.
C'est une des rares fois, ce que tu mentionnes là, Jean-Nic, c'est une des rares fois où l'émotion a pris le dessus sur la raison.
Vraiment,
c'est très, très rare. Là. Mais honnêtement, s'il a réussi à tenir tête aux Chiefs pendant trois quarts, je vois mal comment il va se faire déjouer par une équipe totalement décimée comme les Broncos. On parle des Niners, des Eagles, des clubs qui ont beaucoup de blessures. Hey, les Broncos, ça fait dur. Il y a à peu près 55 millions, c'est la masse salariale qui est actuellement sur la liste des blessés. Là. C'est vraiment, vraiment pas drôle là-bas. Je vois pas comment ils peuvent aller chercher une victoire contre les Pats.
Le match de la fin de semaine. Giants contre Cowboys.
Ben écoute, match de la fin de semaine, on rit, mais il y a une incidence sur la tête de la division Ouest. Là. C'est pas drôle à dire. Là. Les Cowboys ne peuvent absolument pas perdre ce match-là. Ce serait vraiment là, pathétique. Mais les Giants, je veux juste dire une chose, ils ont une fiche de 0-4, ils sont très mauvais. Mais leur défensive m'étonne quand même à date. Écoute, ouais, ils ont perdu trois matchs par la marge de 10 points ou moins. Donc ça veut dire qu'ils luttent à chaque semaine. Ils se font pas humilier là, les Giants jusqu'à maintenant. Mais l'attaque, oh ça fait mal. Ils ont deux touchés à leurs trois derniers matchs. T'sais, ça ne marque pas de points. C'est ça qui leur fait mal. C'est intéressant là, que la défensive se tienne debout, mais encore faut-il aller visiter la zone des buts de temps en temps. Les Cowboys qui ont une défensive pour que l'attaque des Giants se réveille, mais en bout de ligne, ils vont marquer tellement de points, je pense, que vont s'en tirer, puis peut-être prendre la tête de la division avec une excellente fiche de 2 et 3.
J'ai les Cowboys également. Je pense que ils vont finalement partir le match du bon pied. Ils vont prendre l'avance. Ça va être plus problématique pour les Giants, encore une fois, à l'attaque. Malgré le fait que les Cowboys ont une passoire comme défensive et les Cowboys vont l'emporter.
Colts contre les Browns à Cleveland.
Hey, j'aurais pas pensé dire ça, mais je pense que c'est le match de la semaine. C'est vraiment c'est un match très intéressant parce que tu as l'attaque des Browns qui en ce moment pile d'en face de ses adversaires, puis la défensive des Colts, qui aurait vu cette défensive-là comme la meilleure de la ligue au moment où on se parle. Moi, en tout cas, celle-là, je l'ai pas vu venir.
Non.
Je vais y aller avec les Colts. Je suis pas. C'est un match là qui me fait beaucoup réfléchir. Mais j'ai l'impression que c'est pas un feu de paille cette défensive là. Je pense que ça va tenir le coup. Il y a quelque chose dans cette équipe là qui me dit que les Colts pourraient faire du bruit cette saison. L'attaque, c'est encore décevant, beaucoup trop de placements, pas assez de touchés. Mais on sent que le ballon progresse. Il y a à un moment donné, peut-être que la chimie va prendre plus en cours de route là, du côté de l'attaque. Puis les Browns, ben c'est la qualité de leurs adversaires jusqu'à maintenant qui me laisse toujours un petit doute en arrière de la tête. J'aime ce qu'ils font. Je pense qu'ils s'en vont dans la bonne direction. Mais encore faut-il faire ce qu'ils ont fait contre des clubs là, un peu plus imposants. C'est là où je me questionne.
Le partisan des Browns, il dit quoi, lui?
Écoute, je suis toujours objectif, tu sauras, Jean-Nicolas, dans mes... j'aime les Colts qui sont mieux balancés, je pense, que les Browns, tu sais, au niveau défensif et offensif, je pense que ça se tient un peu plus, parce que j'ai pas nécessairement encore confiance dans la défensive des Browns. Mais il y a une chose que j'aime de la défensive des Browns, c'est qu'elle crée des revirements. Puis quand t'as Myles Garrett qui fait un sac fumble par match, ben moi j'ai l'impression que la bataille des revirements va être gagnée par Cleveland. J'ai pas encore confiance en Philip Rivers. Je trouve encore que c'est un carrière qui va lancer une interception par rapport à un moment crucial du match. Et c'est ce qui va donner la victoire aux Browns, messieurs.
Ouh, est-ce que le match va avoir lieu? On le sait pas, mais on va quand même y aller d'une prédiction entre les Bills et les Titans.
Oui, écoute, moi j'ai les Titans dans ce match-là. Je pense qu'ils ont juste hâte de trouver le terrain, même si ils ont peut-être pas tout leur personnel. Moi, je pense qu'ils vont rebondir. Ben, ils vont rebondir. Ça reste qu'ils sont 3-0. Ça reste pas une mauvaise équipe de football. Mais je pense qu'ils vont être extrêmement enthousiastes. Ils vont être plus intenses que les Bills. Les Bills sont dans une sorte de zone de confort. Tout va bien. Mais je pense qu'ils vont être challengés par les Titans si le match a lieu. Victoire Titans.
Ouais, j'ai de plus en plus de misère à voir comment ce match-là pourrait avoir lieu. Puis s'il a lieu, à quel point les Titans vont être préparés? Tu sais, ça va faire maintenant près de 2 semaines qu'ils n'ont pas accès à leurs installations, qu'ils peuvent pas s'entraîner, qu'il y a un paquet de joueurs à soigner là-dedans. J'y vais avec les Bills là, pour les raisons que je viens de mentionner. Il y a un moment donné où je me dis que ça joue inévitablement là, sur le psyché, le mental d'une équipe. Donc, victoire des Bills si le match a lieu.
Les Vikings contre les Seahawks à Seattle.
Et ça sera ma surprise de la fin de semaine.
Oui.
J'y vois avec les Mauves face aux Seahawks. Principalement parce que les Seahawks, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas la meilleure défensive de la NFL. Donc, puis j'ai aimé ce que j'ai vu des Vikings la semaine dernière face à Houston. J'ai trouvé que la cohésion défensive s'en venait un peu mieux que ce que c'était. Et offensivement, j'ai aimé ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils vont être en mesure de compter des points et juste pas arrêter Russell Wilson, mais juste le contrôler un petit peu pour leur donner la victoire.
J'aimerais ça te suivre là-dessus, mais je peux juste pas. J'ai l'impression que les Vikings ont tout simplement pas le personnel sur la ligne défensive pour faire peur à Russell Wilson. J'ai l'impression qu'il va être dans ses pantoufles toute la soirée, puisque c'est le match du dimanche soir. L'autre élément, c'est les Vikings, c'est une bonne recette contre les Texans, c'est-à-dire que tu cours, tu cours, tu cours. Puis dans ce contexte-là, Kirk Cousins devient un corps arrière respectable. Quand le plan de match est suivi à la lettre puis qu'il n'y a rien qui déraille, c'est un excellent, la bonne vieille expression, game manager. Mais dès que tu sors du script, dès que tu quittes le scénario que tu avais établi, si tu lui demandes d'aller te chercher le match, c'est là où j'ai des gros doutes sur Kirk Cousins encore aujourd'hui. Puis ça risque d'être un match comme ça où il se marque beaucoup de points, où tu lui demandes d'aller chercher les gros jeux. Puis dans ce temps-là, j'ai pas l'impression qu'il peut charrier l'équipe. Donc, victoire Seahawks.
Le over-under de ce match-là pour les points jusqu'à maintenant cette semaine, c'est 58. Alors, c'est très élevé.
Ouais, c'est quand même très élevé. On dit de prendre l'over, mais ça reste beaucoup de points. Là. Moi, je vais under peut-être dans ce match.
Ah oui, under. Ouais, 58, j'avoue que là, il faut que ça finisse 30 à 28. Là.
Ah, ça va se faire.
J'aime ton enthousiasme.
Oh, ça va être un 35-27 Seahawks, hein, on va dire ça.
Ah ouais, donc, Jean, comme et toi, donc, 35-27 Seahawks?
Moi, j'ai 31-27 pour les Mauves.
Bon, direct sur le 58. Les Chargers contre les Saints au Monday Night.
Ben, j'aime ce que les Saints ont fait cette semaine, c'est-à-dire que depuis le début de la saison, tout le monde est sur le dos. Drew Brees, il est plus capable de lancer loin. Sa moyenne de verges par passe et de temps, on était sur son dos beaucoup. Cette semaine, contre Détroit, il a complété 6 de ses 9 passes tentées en haut de 15 verges. Là, c'est le corps arrière qui a joué le plus en profondeur la semaine passée. On dirait juste pour attaquer un peu ses détracteurs. Il est encore capable, Drew, quand la situation le commande. Ça n'a jamais été un joueur, de toute façon, qui s'est basé sur la puissance de son bras. Surtout pas depuis la deuxième moitié de la saison en 2018. On a vraiment vu son bras décliner à partir de ce moment-là. Donc, pour moi, ce qui circule en ce moment sur son bras en déclin, c'est pas nouveau. Je trouve que ça s'observe depuis un moment déjà. Trouve d'autres façons, il compense par son intelligence supérieure. Je pense que les Saints sont sur la bonne voie. C'est pas nouveau. Ils ont souvent commencé leur saison un peu coup-ci, coup-ça. Ils se replacent par la suite. J'ai l'impression que c'est la tendance qui va continuer cette semaine. Donc, victoire Saints.
J'ai les Saints également. Pour Drew Brees, par contre, Stéphane, écoute, il a fait une bonne nomenclature de ce qui se passait la semaine dernière. Je n'irai pas aussi précis, mais je le dis, c'est important pour Sean Payton de temps en temps, même si ça serait peut-être un jeu gaspillé, d'essayer une bombe de temps en temps juste pour faire respecter la défensive adverse. Parce que dans les premiers matchs, honnêtement, les défensives, ils jouaient beaucoup trop serrés. C'est important, peu importe c'est qui le carrière, de temps en temps, d'essayer une longue juste pour dire « Hey, les gars, faites attention, là, on est capable de le lancer profondément. » Donc, c'est juste ça que j'ai à dire là-dessus.
Qui est embarqué Taysom Hill un jour ou deux, là?
Ouais, ça, mais c'est important de détirer la défensive parce que dans la NFL, quand les défensives commencent à jouer beaucoup de couverture de zone puis tricher, puis jouer tout en dedans de 20 verges, ben, c'est là que même si t'es ultra précis, il va y avoir des erreurs qui vont se commettre.
Hey les gars, je tiens juste à le mentionner, juste un petit point rapidement, parce qu'on a parlé de la situation de Washington tantôt au poste de carrière, puis la nouvelle vient de sortir pendant qu'on se parle. Kyle Allen qui va amorcer le match contre les Rams.
Wow.
Malheureusement, on n'aura pas Alex Smith, mais effectivement, Dwayne Haskins qui va aller réfléchir sur le banc. Personnellement, tu sais, ça me déçoit parce que Kyle Allen, je trouve qu'on a vu rapidement son plafond l'an passé quand il a remplacé Cam Newton. Il avait très bien commencé, mais on a vite vu ses limites quand il a affronté des vraies équipes là, en fin de parcours. Donc, c'est la situation là-bas.
Et ça ne changera pas ma prédiction.
Non, moi non plus, ça reste Rams, là, peu importe. Là. Mais je tenais à le mentionner parce que la nouvelle vient de sortir au moment où on en discutait. Donc, voilà.
Merci Steph, merci Jean. Restez là après la pause. On décide, enfin, vous nous annoncez qui vous envoyez au bar. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. OK, on est de retour pour le dernier segment de l'émission, et non le moindre, parce que vous envoyez quelqu'un au bar en punition cette semaine, et quelqu'un qui mérite d'aller réfléchir à son tour. Jean, qui t'en va au bar et qu'est-ce qu'il va boire?
Moi, j'envoie Golden Tate et Jalen Ramsey au bar, messieurs. Écoute, ceux qui ne sont pas au courant, les deux se sont battus après la rencontre entre les Giants et les Rams. Et tout ça parce que c'est une histoire de beau-frère. Jalen Ramsey sortait avec l'une des sœurs de Golden Tate qui a déjà eu des enfants avec, puis était enceinte et il l'a laissé. Et ça a laissé un goût amer à Monsieur Golden Tate. Puis là, ça sert que ça s'est pas réglé sur le terrain. Il a fallu que les deux attendent en dehors du terrain pour régler leur histoire de famille. Ben, pour tout ça, messieurs, je les envoie au bar et je les force à boire ensemble de la crème de menthe verte jusqu'à temps qu'ils deviennent les meilleurs chums du monde.
Ça pourrait être long, ça. Il pourrait être au bord puis rater le match en fin de semaine.
C'est possible. Écoute, ça prendra ce que ça prendra. Mais les deux sont enfermés jusqu'à temps qu'ils reviennent, puis qu'ils ressortent, puis qu'ils disent que c'est les meilleurs amis du monde.
La famille avant le football.
Tout à fait.
OK. Steph?
Moi, j'envoie Mike Nolan, coordonnateur défensif des Cowboys au bord.
Ah, il y en a un coordonnateur défensif à Dallas?
Oui, il est pas porté disparu. Il est toujours là. Okay. C'est juste que, écoute, pour les raisons que je mentionnais tantôt, là, ça va vraiment pas bien du côté de la défensive à Dallas. On redonnera pas les chiffres pour rien. Tout le monde est au courant. Mike Nolan n'avait pas été coordonnateur défensif dans la NFL là, depuis 2014. Ça faisait 6 ans. On a l'impression là, qu'il est un peu déconnecté, qu'il est très étourdi. Ce qui ressort de Dallas, c'est que les schémas sont beaucoup plus complexes que du temps de Rod Marinelli là, dans les dernières saisons. Faut peut-être revenir à la base. Donc, Mike Nolan, je le disais, étourdi un petit peu. Donc, je le condamne à être encore plus étourdi. Il va aller boire, je sais même plus si ça existe encore. Vous souvenez-vous, messieurs, de la bonne vieille tornade? J'ai essayé ça une fois dans ma vie. J'en garde de très mauvais souvenirs. Donc, Mike Nolan, je pense que c'est un bon châtiment que je lui impose. Va être T'sais, si à force de t'étourdir, à un moment donné, les choses doivent se replacer, là, je ne sais pas, c'est la punition. De toute façon, au bord, des fois, on le dit souvent, il faut que ça soit quelque chose de négatif. Là, on peut pas l'envoyer au bord pour avoir du fun, tout simplement. Donc, je pense qu'avec une tornade, là, il a frappé un bon client.
Mais combien de vies a Mike Nolan? Il a joué pour les, il a coaché pour les Broncos, les Giants, les Redskins, les Jets, les Ravens, les Niners, les Dolphins, les Falcons, les Chargers, les Saints, et maintenant à Dallas.
Ben, écoute, ça, c'est la vie d'un entraîneur, là. Ça se promène, ça fait à peu près 10, 12, 15 équipes, là. C'est pas si étonnant, puis Nolan a eu une carrière là, très respectable, là. On ferait peut-être pas mieux, là. Mais le fait est que peut-être qu'il devrait revenir à la base, puis que ses joueurs puissent jouer de façon plus rapide plutôt que de se poser des questions là, sur leurs assignations.
Merci les gars, c'est comme ça que cet épisode se conclut. Notre 5e de cette saison pour la 5e semaine, en espérant qu'il y aura une semaine pas trop chamboulée par la COVID dans la NFL. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Bye les gars!
Salut!